Chapitre 2. Le sombre hiver où nous entrons ne fut pas atrocement froid comme celui de 89. Dieu eut pitié de la France. Il n'y aurait eu nul moyen de résister et de vivre. La misère avait augmenté. Nulle industrie, nul travail. Les nobles, dès cette époque, émigrent, ou du moins quittent leur château, la campagne trop peu sûre, viennent s'établir dans les villes, s'y tiennent renfermés, serrés dans l'attente des événements. Plusieurs se préparent à fuir, font leur mal à petit bruit. S'ils agissent dans leur domaine, c'est pour demander, non pour soulager. Ils ramassent à la hâte ce qu'on leur doit, l'arriéré des droits féodaux. Resserrement de l'argent, cessation du travail, entassement effroyable des mendiants dans les villes, près de 200 000 à Paris. D'autres y viendraient par millions si l'on obligeait les municipalités de garder les leurs. Chacune, pendant tout l'hiver, s'épuise à nourrir ses pauvres, jusqu'à tarir toute ressource. Les riches ne recevant plus, descendent presque au niveau des pauvres. Tous se plaignent. Tous implorent l'Assemblée nationale. Que les choses continuent, il ne s'agira pour elle de rien moins que de nourrir tout le peuple. Il ne faut pas que le peuple meure. Il a une ressource, après tout, un patrimoine en réserve auquel il ne touche pas. C'est pour lui, pour le nourrir, que nos charitables aïeux s'épuisèrent en fondations pieuses, dotèrent du meilleur de leurs biens les dispensateurs de la charité et les ecclésiastiques. Ceux-ci ont si bien gardé, augmenté le bien des pauvres, qu'il a fini par comprendre le cinquième des terres du royaume, estimé 4 milliards. Le peuple, ce pauvre si riche, vient aujourd'hui frapper à la porte de l'église, sa propre maison, demander part dans un bien qui lui appartient tout entier. Panem, propter deum. Il serait dur de laisser ce propriétaire, ce fils de la maison, cet héritier légitime, mourir de faim sur le seuil. Si vous êtes chrétien, donnez. Les pauvres sont les membres du Christ. Si vous êtes citoyen, donnez. Le peuple, c'est la partie vivante. Si vous êtes honnête gens, rendez, car ce bien n'est qu'un dépôt. Rendez, et la nation va vous donner davantage. Il ne s'agit pas de vous jeter dans l'abîme pour le combler. On ne vous demande pas que, nouveaux martyrs, vous vous immoliez pour le peuple. Il s'agit tout au contraire de venir à votre secours et de vous sauver vous-même. Pour comprendre ceci, il faut savoir que le corps du clergé, monstrueux de richesse par rapport à la nation, était aussi un monstre en soi. D'injustice, d'inégalité, ce corps énorme à la tête crevant de graisse et de sang était, dans ses membres inférieurs, maigre, sec et famélique. Ici, le prêtre avait 1 million de rente et là 200 francs. Dans le projet de l'Assemblée qui ne parut qu'au printemps, tout cela était retourné. Les curés et vicaires de campagne devaient recevoir de l'État environ 60 millions, les évêques 3 seulement. De là, la religion perdue, Jésus en colère, la Vierge pleurant dans les églises du Midi, de la Vendée, toute la fantasmagorie nécessaire pour pousser les paysans à la révolte, au massacre. L'Assemblée voulait encore donner 33 millions de pensions aux moines et religieuses, 12 millions de pensions aux ecclésiastiques isolés, etc. Elle eut porté le traitement général du clergé à la somme énorme de 133 millions, qui par les extinctions se fut réduite à la moitié. C'était faire largement les choses. Le moindre curé devait avoir, sans compter les logements, presbytères, jardins, au moins 1200 livres par an. Pour dire vrai, tout le clergé, moins quelques centaines d'hommes, eut passé de la misère à l'aisance, en sorte que ce qu'on appelait la spoliation du clergé en était l'enrichissement. Les prêtres firent une belle défense, héroïque. Il fallut s'y reprendre à 3 fois, livrer 3 batailles, octobre, décembre, avril, pour tirer d'eux ce qui n'était que justice et restitution. On put voir parfaitement où ces hommes de Dieu avaient leur vie et leur cœur, la propriété. Ils la défendirent comme les premiers chrétiens avaient défendu la foi. Les arguments leur manquaient, mais non pas la rhétorique. Tantôt, ils se répandaient en prophéties menaçantes. « Si vous touchez à une propriété sainte et sacrée entre toutes, toutes vont être en danger. Le droit de propriété périt dans l'esprit du peuple. Le peuple va venir demain demander la loi agraire. » Un autre disait avec douceur « Quand on ruinerait le clergé, on n'y gagnerait pas grand-chose. Le clergé, hélas, est si pauvre. Endetté de plus, ses biens, s'il ne continue d'être administré par lui, ne paieront jamais ses dettes. » La discussion avait été ouverte le 10 octobre. Talleyrand, l'évêque d'Autun qui avait fait les affaires du clergé et maintenant voulait faire des affaires à ses dépens, cassa la glace le premier, se hasarda sur ce terrain glissant d'un pied boiteux, évitant le fond même des questions, disant seulement que le clergé n'était pas propriétaire comme les autres propriétaires. À quoi Mirabeau ajouta, que la propriété était à la nation. Les légistes de l'Assemblée prouvèrent surabondamment, premièrement, que le clergé n'était pas propriétaire, pouvant user et n'en abuser. Deuxièmement, qu'il n'était pas possesseur, le droit ecclésiastique lui défendant de posséder. Troisièmement, qu'il n'était pas même usufruitier, mais dépositaire, administrateur tout au plus et dispensateur. Ce qui produisit plus d'effet que la dispute de mots, c'est qu'au moment où l'on mit la cognée au pied de l'arbre, des témoins muets comparurent qui, sans déposer contre lui, montrèrent tout ce qu'il avait couvert, cet arbre funeste, d'injustice, de barbarie dans son ombre. Le clergé avait encore des serres au temps de la Révolution. Tout le XVIIIe siècle avait passé tous les libérateurs, et Rousseau, et Voltaire, dont la dernière pensée fut l'affranchissement du Jura. Le prêtre avait encore des serres. La féodalité avait rougi d'elle-même. Elle avait à divers titres abdiqué ses droits honteux. Elle en avait repoussé, non sans honneur, les derniers restes dans la grande nuit du 4 août. Le prêtre avait toujours des serres. Le 22 octobre, l'un d'eux, Jean Jacob, paysan mamortable du Jura, vieillard vénérable, âgé de plus de 120 ans, fut amené par ses enfants et demanda la faveur de remercier l'Assemblée de ses décrets du 4 août. Grande fut l'émotion. L'Assemblée nationale se leva tout entière devant ce doyen de genre humain, le fit asseoir et couvrir. Noble respect de la vieillesse, et réparation aussi pour le pauvre serf, pour une si longue injure aux droits de l'humanité. Celui-ci avait été serf un demi-siècle sous Louis XIV et 80 ans depuis. Il l'était encore. Les décrets du 4 août n'étaient qu'à l'état de déclaration générale, rien d'exécuté. Le servage ne fut expressément aboli qu'en mars 90. Le vieillard mourut en décembre. Ainsi, ce dernier des serfs ne vit pas la liberté. Le même jour, 23 octobre, M. de Castellane, profitant de la motion de l'Assemblée, demanda qu'on visitât les 35 prisons de Paris, celles de la France, qu'on ouvrît spécialement des prisons plus ignorées encore, plus profondes que les bastilles royales, les cachots ecclésiastiques. Il fallait bien à la longue, qu'en ce jour des résurrections, le soleil perça les mystères, que le bienfaisant rayon de la loi éclaira la première fois ces justices de ténèbres, ces basses fausses, ces in pace, où souvent, dans leur furieuse haine de cloître, dans leur jalousie, leurs amours plus atroces que leur haine, les moines enterraient leurs frères. Hélas, les couvents tout entiers, qu'était-ce que des in pace, où les familles rejetées, oubliées telles de leurs membres qui étaient venus de trop, et qu'on immolait aux autres. Ceux-ci ne pouvaient pas, comme le cierre du Jura, se traîner jusqu'au pied de l'Assemblée nationale. Ils demandaient la liberté, embrassaient la tribune au lieu d'autel. À grand-peine, de loin et par lettres, pouvaient-ils, osaient-ils se plaindre? Une religieuse écrivit, le 28 octobre, timidement, dans des termes généraux, ne demandant rien pour elle, mais priant l'Assemblée de statuer sur les vœux ecclésiastiques. L'Assemblée n'osa encore prendre un parti. Elle se contenta de suspendre l'émission des vœux, de fermer ainsi l'entrée aux nouvelles victimes. Combien elle se serait hâtée d'ouvrir les portes aux tristes habitants des cloîtres, si elle eût su l'état d'ennui désespéré où ils étaient parvenus. J'ai dit ailleurs comment toute culture, toute vie avait été peu à peu retirée aux pauvres religieuses, comment les défiances du clergé leur ôtaient tout aliment. Elle se mourait à la lettre, n'ayant rien de vital à respirer, la religion leur manquant autant et plus que le monde. La mort, l'ennui, le vide, rien aujourd'hui, rien demain, rien le matin, rien le soir. Un confesseur parfois et quelques libertinages. Ou bien elle se jetait brusquement de l'autre côté, du cloître à Voltaire, à Rousseau, en pleine révolution. J'en ai vu de bien incrédules. Peu se faisait une foi, mais celle-là l'avait forte et la suivait dans la flamme. Témoin, Mademoiselle Corday, nourrie au cloître de Plutarque et d'Émile, sous les voûtes de Mathilde de Guillaume le Conquérant. Ce fut comme une revue de tous les infortunés. Tous les revenants du Moyen-Âge apparurent à leur tour, en face du clergé, l'universel oppresseur. Les Juifs vinrent. Souffletés annuellement à Toulouse, ou pendus entre deux chiens, ils vinrent modestement demander s'ils étaient hommes. Ancêtres du christianisme, si durement traités par leurs fils, ils l'étaient aussi en un sens de la Révolution française. Celle-ci, comme réaction du droit, devait s'incliner devant ce droit austère où Moïse a pressenti le futur triomphe du juste. Autre victime des préjugés religieux, le pauvre peuple des comédiens eut aussi sa réclamation. Préjugés barbares, les deux premiers hommes de la France et de l'Angleterre, l'auteur d'Othello, l'auteur du Tartuffe, n'étaient-ce pas des comédiens? Le grand homme qui parla pour eux à l'Assemblée nationale, Mirabeau, fut un comédien sublime. L'action, l'action, l'action. C'est tout l'orateur, a dit Démosthène. L'Assemblée ne décida rien pour les comédiens, rien pour les juifs. À l'occasion de ceci, elle ouvrit aux non-catholiques l'accès des emplois civils. Elle rappela des pays étrangers nos frères infortunés, les protestants, chassés par les barbares directeurs de Louis XIV. Elle promit de leur rendre tout ce qu'on pourrait de leurs biens. Plusieurs revinrent au bout d'un siècle d'exil. Peu retrouvèrent leur fortune. Cette population innocente, injustement bannie, ne trouva point le milliard si légèrement accordé à la coupable émigration. Ce qu'ils trouvèrent, ce fut l'égalité, la réhabilitation la plus honorable, la France rendue à la justice. La France ressuscitée, les leurs au premier rang de l'Assemblée, Rabault, Barnave à la tribune. Trop juste réaction. Ces deux protestants illustres étaient membres du comité ecclésiastique et jugeaient leurs anciens juges. Régler le sort de ceux qui bannirent, rouèrent ou brûlèrent leur père. Pour vengeance, ils proposèrent de voter 133 millions pour le clergé catholique. Rabault Saint-Étienne était, comme on sait, fils du vieux docteur, du persévérant apôtre, du glorieux martyr des Cévennes qui, 50 années durant, ne connut d'autre toit que la feuillée et le ciel, poursuivi comme un bandit, passant les hivers sur la neige à côté des loups, sans arme que sa plume dont il écrivait ses sermons au milieu des bois. Son fils, après avoir travaillé bien des années à l'œuvre de la liberté religieuse, eut le bonheur de la voter. C'est lui aussi qui proposa et fit proclamer l'unité, l'indivisibilité de la France. Noble proposition que tous sans doute auraient faite, mais qui devait sortir d'abord du cœur de nos protestants, si longtemps, si cruellement divorcés de la patrie. L'Assemblée porta Rabault à la présidence, et il eut l'insigne joie d'écrire à son père octogénaire cette parole de réhabilitation solennelle, d'honneur pour les proscrits. Le président de l'Assemblée nationale est à vos pieds.